Vous êtes avec SBS French.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans votre émission de ce samedi 2 août 2025. Je m'appelle Marianne Murat, nous allons passer une heure ensemble, vous écoutez le programme en français de la radio SBS. Et comme tous les samedis, nous allons commencer avec la rétrospective du jour. On fait un bond de 35 ans en arrière. Que s'est-il passé le 2 août 1990 ? Réponse tout de suite. On vous propose aujourd'hui cette rétrospective qui nous ramène 35 ans en arrière. Le 2 août 1990, à la surprise générale, l'Irak envahit son voisin, le Koweït, qu'il accuse de lui voler du pétrole. C'est le point de départ de la guerre du Golfe aux conséquences vertigineuses pour tout le Proche-Orient, raconté par François Vantôme.
Pour comprendre cette guerre, il est essentiel de saisir le contexte géopolitique de la région. À la fin des années 80, l'Irak, sous le régime de Saddam Hussein, était dans une situation économique désastreuse après la guerre Iran-Irak qui avait duré de 1980 à 1988. À cette époque, l'Irak avait accumulé une dette massive, notamment envers le Koweït qui avait soutenu financièrement Bagdad pendant le conflit. Le Koweït, riche en pétrole, était perçu par Saddam comme un pays qui exploitait les ressources pétrolières de la région à des fins personnelles à travers des pratiques d'extraction jugées excessives. De plus, il y avait des différends frontaliers et l'Irak considérait le Koweït comme une partie de son ancien territoire. Cette combinaison de facteurs a poussé Saddam Hussein à prendre la décision d'envahir le Koweït le 2 août 1990. L'invasion a été rapide et soudaine. En quelques heures, les forces irakiennes ont envahi le pays, prenant la capitale Koweïtville. Saddam Hussein a immédiatement déclaré le Koweït comme la 19e province irakienne. Cette agression a suscité une réaction internationale immédiate. La communauté internationale, dirigée par les États-Unis, a dénoncé cette invasion. En réponse à l'agression, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté une série de résolutions appelant à un retrait immédiat des forces irakiennes et a imposé des sanctions économiques strictes à l'Irak. La résolution 660, adoptée le 2 août, a été le point de départ des efforts diplomatiques pour résoudre la crise. Les États-Unis, sous la présidence de George W. Bush, ont joué un rôle déterminant dans la formation d'une large coalition internationale pour contrer l'invasion. Ce groupe comprenait des pays du Golfe, des nations européennes comme la France et le Royaume-Uni. Cette coalition a été inédite par son ampleur et sa diversité. Le 16 janvier 1991, après avoir donné à l'Irak un ultimatum de retrait, les forces de la coalition ont lancé l'opération Tempête du désert. On écoute George W. Bush.
Two hours ago, Allied air forces began an attack on military targets in Iraq and Kuwait. These attacks continue as I speak. Ground forces are not engaged. This conflict started August 2nd. When the dictator of Iraq invaded a small and helpless neighbor. Kuwait, a member of the Arab League and a member of the United Nations, was crushed, its people brutalized. 5 months ago, Saddam Hussein started this cruel war against Kuwait. Tonight, the battle has been joined. This military action, taken in accord with United Nations resolutions, and with the consent of the United States Congress, follows months of constant and virtually endless diplomatic activity on the part of the United Nations, the United States, and many, many other countries.
Cette campagne militaire a combiné des frappes aériennes massives et l'envoi de troupes au sol pour libérer le Koweït. la rapidité et l'efficacité de l'opération ont surpris le monde, montrant les capacités militaires avancées des forces alliées, notamment grâce à l'utilisation de la technologie moderne comme les fameux missiles de croisière Tomahawk pour frapper des cibles stratégiques. Le 24 février 1991, la phase terrestre de l'opération a été lancée, permettant aux troupes de la coalition d'avancer rapidement et de libérer le Koweït en seulement 100 heures de combat terrestre. Cependant, les conséquences de cette guerre ont été profondes et durables. Les leçons tirées de cette guerre sont multiples et souvent complexes. D'un côté, le Koweït a été rétabli dans son autonomie, mais le régime de Saddam Hussein a survécu, ce qui a conduit à une instabilité persistante dans la région. Quant aux leçons à tirer, premièrement, il a été démontré que l'action rapide et coordonnée de la communauté internationale est essentielle face à une agression manifeste. Les Nations Unies ont joué un rôle central dans ce processus, ce qui souligne la nécessité d'une réponse collective contre les violences. Deuxièmement, l'importance de prendre en compte les conséquences à long terme des interventions militaires est devenue incontournable. Les sanctions imposées à l'Irak ont eu des effets dévastateurs sur sa population, exacerbant la crise humanitaire et suscitant des ressentiments qui allaient se manifester dans les décennies suivantes. Par ailleurs, il s'agissait aussi d'un exercice délicat de gestion des relations complexes entre les nations du Moyen-Orient et les puissances occidentales. Les répercussions de cette guerre ont engendré un climat de méfiance avec des effets sur les relations diplomatiques qui perdurent aujourd'hui. La guerre du Golfe a ainsi ouvert la voie à une nouvelle dynamique dans les relations internationales, semant les graines de tensions géopolitiques qui continuent d'affecter la stabilité de la région. Bien que Saddam Hussein ait été finalement renversé lors de l'invasion de l'Irak en 2003, les luttes de pouvoir et les rivalités sectaires qui ont émergé à la suite du vide de pouvoir laissé par son départ ont engendré des conflits internes et ont exacerbé les tensions entre les différentes factions au Moyen-Orient.
Des portoricains bien intégrés, quasiment new-yorkais. Dans mon bulletin tout de verre et d'acier,
les armes, les drapeaux, les patries, les nations font toujours de nous de la chair à canon.
Le duo Axel Red Renault sur les ondes de radio SBS Manhattan Kaboul. En cette fin juillet est sorti sur les écrans de cinéma australien le film français Le Tableau Volé, que vous trouverez ici sous le nom de The Stolen Painting. Nous avons rencontré le célèbre réalisateur Pascal Bonitzer. Il nous parle de son long métrage, de ses inspirations et de son métier. Interview.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Nous sommes en ligne avec le réalisateur français Pascal Bonitzer. Monsieur Bonitzer, bonjour.
Bonjour.
Vous avez réalisé le film The Stolen Painting, c'est son nom en anglais, en français c'est Le Tableau Volé. Votre film arrive sur les écrans australiens à la fin du mois. C'est une comédie morale qui met en scène la collusion de deux mondes sociaux. D'un côté, le marché de l'art parisien et de l'autre côté, le milieu ouvrier d'une famille alsacienne. C'est une comédie qui interroge des sujets sensibles. On parle d'art, on parle d'argent, on parle de spoliation. Est-ce que vous pouvez nous raconter en quelques mots ce film tiré d'une histoire vraie ?
Oui, alors elle m'a été racontée par un spécialiste d'art moderne d'une grande maison de vente internationale. C'est une histoire qu'il a lui-même vécue il y a une vingtaine d'années en réalité, qui est donc la découverte d'un tableau d'Egon Schiele, peintre assez rare et très très cher aujourd'hui, dans la maison d'un jeune ouvrier de la banlieue de Mulhouse, œuvre qui avait disparu au début de la Seconde Guerre mondiale et qu'on croyait absolument perdue.
C'est un film qui interroge la morale du coup, prendre l'argent de la vente et avoir du sang sur les mains, comme dit ce jeune ouvrier, ou alors garder ses valeurs et refuser l'argent.
Il s'agit évidemment d'une œuvre spoliée par les nazis à un collectionneur juif. Et il est tombé entre les mains de ce jeune ouvrier qui n'en connaissait absolument pas ni la valeur ni l'origine. Ce qui est dans le film est mis en avant, c'est la réaction de ce jeune homme, qui est assez particulière.
Est-ce que c'est une forme de satire aussi de votre part du monde du marché de l'art? Il y a Alex Lutz qui joue un commissaire-priseur. D'ailleurs, en réalité, ce n'était pas un commissaire-priseur, mais un expert. Vous avez pris une liberté ici. Il joue à merveille son rôle, un rôle assez froid, assez sévère. Est-ce qu'il y a une forme de satire de votre part?
Oui, c'est-à-dire c'est un monde qui est facile à caricaturer parce que l'argent il possède une telle importance et ce sont des sociétés qui brassent des milliards. Le monde des ventes aux enchères est devenu quelque chose d'un petit peu monstrueux depuis des décennies.
Monsieur Bonitzer, le sujet de la spoliation qui est le cœur de ce film, c'est un travail de mémoire.
Retrouver des œuvres d'art qui ont été spoliées par les nazis, c'est forcément découvrir un pan de l'histoire qui a été cachée. De même que cette œuvre a été cachée, ce qui a été caché avec elle, c'est la collaboration de ceux qui la possédaient. C'est le fait qu'ils étaient les collaborateurs des nazis. C'est une œuvre de vérité en même temps qu'une découverte d'une œuvre d'art. C'est ça qui m'intéressait aussi.
Et ça vous intéressait également de faire un film sur l'art, la peinture? On sait de vous que quand vous étiez adolescent, vous hésitiez entre être cinéaste ou peintre.
Oui, j'ai dû raconter ça quelque part, c'est vrai. Quand j'étais jeune, oui, quand j'avais autour de 14-15 ans, oui. Mais le cinéma m'intéressait tout particulièrement et je crois que c'est quand même mon désir me portait plutôt du côté du cinéma.
Votre carrière dans le cinéma, elle a été en plusieurs étapes. Vous avez commencé, vous étiez critique, puis vous êtes devenu scénariste, aujourd'hui réalisateur. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire évoluer votre carrière en ce sens-là?
En réalité, j'ai toujours voulu réaliser des films. J'ai toujours voulu faire du cinéma, comme on dit. J'étais assez timide, si vous voulez. Enfin, en tout cas, je me suis pas senti la force tout de suite de passer à la réalisation. Et donc, il m'a fallu plusieurs détours. Je me suis intéressé à la critique de cinéma aussi. Je suis devenu critique au Cahier du Cinéma. J'ai eu la chance de travailler comme critique au Cahier du Cinéma très jeune. Ce qui m'a permis de rencontrer des cinéastes, dont certains m'ont proposé de collaborer comme scénariste à leur film, et c'est comme ça que j'ai entamé une carrière de scénariste. J'ai mis beaucoup de temps à apprécier le métier de scénariste pour lequel je me sentais pas du tout fait. C'est de travailler avec Jacques Rivette qui m'a enfin fait découvrir le plaisir d'écrire pour les films, et sa méthode de travail qui consistait à ce qu'on écrive pendant le tournage et pratiquement au contact des comédiens, m'a aidé très vraisemblablement à passer à la réalisation ensuite.
Et ça arrive que l'on vous voit devant la caméra parfois, acteur, c'est un métier qui vous plaît ?
Non, c'est pas un métier, c'est un amusement.
Est-ce que le fait que vous sachiez tout faire, donc écrire, réaliser, disons ce côté touche à tout, le scénariste, réalisateur, un petit peu acteur à vos heures perdues, tel un hobby, et aussi critique, ce qui vous permet peut-être, vous allez me le dire ou non, d'avoir une autocritique sur vos propres films. Est-ce que vous pensez que ça fait de vous un meilleur professionnel, que c'est une façon de vous tirer vers le haut ?
Non, je dirais pas ça. Quand vous dites autocritique, c'est drôle parce que le premier titre auquel j'avais pensé pour mon premier film, c'était justement autocritique. Évidemment, un clin d'œil à mon activité. Bon, finalement, j'ai pas gardé ce titre. Je pense que ça a contribué à mes difficultés. Parce que l'activité critique et théoricienne, un petit peu aussi, puisque c'était la mode à l'époque où j'étais critique, est quelque chose qui, disons, le jugement que je pouvais porter sur les œuvres des autres est quelque chose qui m'a sans doute contribué à mon inhibition par rapport à la pratique du cinéma où il faut oublier d'être critique, justement. Il faut se lancer, il faut pas se regarder écrire, il faut pas se regarder filmer, sinon on fait plus rien.
Pascal Bonitzer, vous avez 9 longs métrages à votre actif, vous en avez 2 en cours de préparation.
Ils sont pas en cours de préparation, ils sont déjà tournés. J'ai terminé le tournage il y a 15 jours.
Donc de Hugo et Maigret et les Vieillards.
Voilà, c'est ça. Enfin, Maigret et les Vieillards, c'est le titre du roman. Le film s'appellera Maigret et le mort amoureux, parce que mes producteurs n'ont pas voulu de Maigret et les Vieillards, ce que je peux comprendre.
Où est-ce que vous trouvez l'inspiration dans le sens où comment vous choisissez de faire tel film et pas un autre, par exemple ?
C'est très aléatoire. Le Maigret, c'est une sorte de coup de tête. J'ai lu le roman peu de temps après avoir terminé le tableau volé. Et j'ai eu envie de l'adapter, sans trop réfléchir, justement. Parce que ce qui m'intéressait, c'était de voir si la figure de Maigret résistait à notre époque. Je voulais imaginer un Maigret dans le monde d'aujourd'hui. Alors, sachant que vraiment c'est un homme du XXe siècle qui n'aurait absolument rien compris au monde dans lequel nous sommes, à l'électronique, à l'intelligence artificielle, aux ordinateurs.
Justement, je voulais vous en parler également du monde d'aujourd'hui. Je voulais savoir quel regard vous portiez sur le cinéma aujourd'hui. Il y a le développement des séries, des mini-séries, des plateformes de streaming, le vidéo à la demande. Est-ce que le cinéma a changé? Est-ce que votre métier a changé?
D'abord, il s'est démultiplié. Il y a effectivement la télévision, qui était un monde à part pendant très longtemps au XXe siècle, était un petit peu méprisée par le monde du cinéma, est devenue au contraire quelque chose de très attractif avec les séries, qui ont acquis beaucoup de prestige. Ça a forcément affecté aussi la pratique du cinéma, mais elle continue à l'ancienne, disons. Oui, c'est certain, tout ça a beaucoup changé. Mais en même temps, on continue. Moi, je fais des films comme je les faisais. Quand j'ai commencé, il y a une trentaine d'années, sauf que j'ai beaucoup moins de moyens et que je dois les faire beaucoup plus vite. Mais ça ne déplaît pas.
J'entendais ça dans une interview que vous aviez donnée à propos du tableau volé, justement, que ça avait été une difficulté de représenter un monde de richesse avec peu de moyens.
Oui. Oui, enfin, c'était effectivement le challenge, c'est que le film n'ait pas l'air pauvre parlant d'un monde de richesse. Je crois que j'ai réussi à transformer l'essai, enfin.
Pascal Bonitzer, le mot de la fin en quelques mots, à l'aube de vos 80 printemps, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans votre carrière?
Oula, j'ai été bouleversé quand j'avais 13 ans. C'est un souvenir que je garde intact par la vision de La Dame de Shanghai de Orson Welles. J'ai été aussi bouleversé par la vision d'une photo de Harriet Anderson dans un film de Bergman, Monica, les seins presque nus et les yeux fermés. Ce sont deux souvenirs extrêmement marquants et qui ont, je pense, influé sur toute ma vision du cinéma et peut-être de la vie.
Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Pascal Bonitzer.
Merci à vous.
Vous écoutez le français sur Radio SPS.
Comportement bah ouais, j'ai dit comportement bah ouais, je suis dans mon comportement bah ouais, j'ai dit comportement bah ouais, les mecs ont bombé la torse ah ouais, les mecs ont bombé la torse ah ouais, j'ai dit comportement bah ouais, les poches remplies d'oseille ah ouais, j'ai dit comportement bah ouais.
C'était Aya Nakamura, bien sûr, avec la chanson Comportement. Restez sur SBS French, messieurs, dames, surtout si vous ne savez pas quoi faire ce soir, puisque notre collègue Grégory Pless a enquêté sur la vie nocturne à Sydney en pleine évolution.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui intéresse sans doute tous ceux qui vivent à Sydney et plus largement en Nouvelle-Galles du Sud. Peut-être quelque chose qui, comme moi, vous a surpris quand vous êtes arrivé en Australie et dans cette ville en particulier. Une ville qui fait partie des grandes villes du monde comme New York, Rio, Paris, Tokyo, etc. Mais la grande différence avec toutes ces grandes métropoles, c'est que la vie nocturne à Sydney, c'est quand même pas incroyable, il n'y a pas beaucoup de choix et surtout tout se termine très tôt. Mais il y a la volonté de changer tout ça, une volonté portée par le gouvernement de Nouvelle-Galles du Sud. Et pour en parler avec nous aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir une Française qui travaille pour ce fameux gouvernement, Aurore Nicolas. Bonjour.
Bonjour Grégory, super contente de pouvoir parler de comment on redynamise Sydney et le New South Wales.
Eh bien, nous aussi, parce qu'on aimerait bien qu'il y ait des choses plus actives que les chauves-souris la nuit à Sydney. Alors, la première question que je voudrais poser, alors c'est vrai que on constate, hein, tous ceux qui vivent en Australie de manière générale, les Australiens, c'est quand même des gens qui se lèvent tôt, qui font beaucoup de choses le matin et qui ont peut-être un peu plus de mal à se motiver le soir, mais en même temps, trouver à Paris des gens qui font leur footing à 6 heures du matin, c'est très difficile aussi. Alors, Ma première question, c'est donc sur cette vie nocturne que personnellement et sans être moi-même un énorme fêtard, je trouve assez limitée. Est-ce que ça a toujours été comme ça?
Alors non, historiquement, en fait, on a commencé à voir le déclin de la vie nocturne à Sydney à partir des années au milieu des années 2010. À la suite d'un incident qui s'est passé dans le quartier de King Cross, hein, un jeune en fait qui a perdu la vie suite à une altercation. Donc c'était en 2014 si je me souviens bien, et à partir de cette année-là, ça a vraiment sensibilisé le public australien et les personnes qui vivaient qui vivent dans le New South Wales. Donc suite à ça, en fait, le gouvernement a vraiment restreint, on va dire, les droits des établissements, en fait, principalement établissements de nuit, bars, boîtes de nuit. Donc on a commencé à voir le déclin à partir de ce moment-là. Il y a des quartiers de Sydney qui ont vraiment été rayés de la carte suite à ça. Et il y a eu des campagnes, par exemple, une campagne qui s'appelait Keep Sydney Open. C'était en protestation un peu par rapport à ça. Donc il y avait le gouvernement qui essayait de protéger un petit peu les citoyens et puis d'une manière très réactive. Et ensuite, il y avait les citoyens qui avaient envie de sortir et d'avoir une vie nocturne plaisante, agréable, saine, qui considéraient que ajouter des réglementations, c'était pas régler le problème de fond, en fait. Donc, on a vu ce déclin dans les années de 2014 à 2020. En 2020, le gouvernement a mis une stratégie en place pour redynamiser la vie de nuit, la vie nocturne. Parce qu'ils se rendaient bien compte que plusieurs années comme ça, c'était vraiment difficile pour les restaurateurs et tous les business qui sont dans l'hospitality, comme on dit ici.
Ces fameuses lockout laws de 2014, tu l'expliquais, elles ont vraiment fracassé un certain nombre de commerces, d'établissements qui vivaient grâce aux gens qui sortent le soir, en particulier dans le quartier de King's Cross, effectivement, qui a été ciblé et qui, pour les gens qui nous écoutent, qui ne savaient pas, c'était un peu le quartier chaud de Sydney, un peu l'équivalent de Pigalle, on va dire, version Sydney. Je crois que c'est devenu très compliqué également pour une bonne partie de Surrey Hills, notamment autour de la fameuse Oxford Street où se déroule la parade de Mardi Gras, etc. Ces deux quartiers qui se sont énormément gentrifiés. Et de ce que j'en sais, la vie nocturne, du coup, c'est un peu décalé, notamment dans le quartier de l'Inner West autour de Newtown et de Enmore où ces lois ne s'appliquaient pas. Et donc, tu expliquais également que désormais le gouvernement est revenu sur ces lois, qu'il a s'est rendu compte que peut-être il était allé un peu trop loin, qu'il fallait un petit peu redynamiser cette vie nocturne. Et justement, pour parler de l'Inner West Council, dans le quartier d'Enmore, où il y a beaucoup de restaurants, beaucoup de bars, etc., depuis un an, il y a eu une expérimentation qui a été faite. On y a créé ce qui s'appelle un « Special Entertainment Precinct ». Et en gros, les bars, les restaurants qui se trouvent là ont des autorisations particulières pour rester ouverts un peu plus tard le soir. Ils sont encouragés à organiser des concerts live, à avoir des artistes animer les soirées. Et je crois aussi quelques permissions concernant la possibilité de mettre des tables sur les trottoirs pour que les gens puissent manger jusqu'à assez tard le soir. Alors ça, c'est donc au niveau du conseil de l'Inner West. Depuis le point de vue du gouvernement de Nouvelle-Galles du Sud, comment on regarde cette initiative? Est-ce qu'elle est saluée? Est-ce que ça va dans la bonne direction, ce qui se passe dans ce quartier?
Oui, alors en fait, c'est un projet qu'on soutient, que le bureau pour lequel je travaille soutient. C'est un quartier qui est précurseur sur leur stratégie. Donc en fait, l'équipe pour laquelle je travaille est en lien avec toutes les mairies autour de Sydney, de ce qu'on appelle le Greater Sydney. Les Special Entertainment Precinct, en fait, ça établit certaines règles où les restaurateurs peuvent rester ouverts plus longtemps.
Ok. Alors, pour revenir sur effectivement cette initiative de l'Inner West, donc Le precinct de Enmore va être pérennisé. Il a également été annoncé par la même mairie qu'ils allaient en ouvrir 6 nouveaux dans les différents quartiers de la commune. Balmain, Dulwich Hill, Leichhardt, Rosell et Maryville, deux endroits différents également. Toi, Aurore, tu travailles donc pour le gouvernement de Nouvelle-Galles du Sud, plus précisément pour le Commissioner for the 24-Hour Economy, donc en gros le commissaire chargé de la vie nocturne. Je ne sais pas si c'est une bonne traduction, mais voilà, il y a ces initiatives qui sont prises au niveau local, au niveau municipal, vous, au niveau de l'État. Qu'est-ce que vous faites? Vous accompagnez ces initiatives? Vous en poussez d'autres? Qu'est-ce que vous faites sur ce sujet
Alors, au sein de mon équipe, il y a plusieurs divisions qui s'occupent de projets différents. Donc, on a quelque chose qui aide à développer en fait les compétences et un petit peu une sorte d'accélérateur pour les personnes qui travaillent dans le milieu de la restauration et de l'hôtellerie. Donc, en fait, des personnes qui travaillent pour un bar ou qui travaillent pour un bowling, par exemple, peuvent aller, c'est sur plusieurs semaines, et ils apprennent un petit peu comment diversifier leurs offres et comment attirer le public, plus davantage de public, davantage de personnes à passer les portes et à rester chez eux pour bah, s'amuser et profiter de ce qu'ils peuvent offrir. Donc ça, c'est un programme qui s'appelle le Uptown District Accelerator. Donc ce premier programme est général. Le deuxième programme est un petit peu plus sur les performances. Donc ce qu'on va définir comme performance, ça peut être quelqu'un qui vient jouer en tant qu'un artiste solo ou un groupe de musique ou des personnes qui peuvent faire de l'art de rue, des comédiens qui viendraient faire un petit peu un comédie club. Donc ce genre de choses, c'est un autre accélérateur. On offre aussi des aides financières. On a une plateforme aussi où on met en relation, qui s'appelle la Neon Marketplace, où on met en relation les personnes qui font partie du milieu, encore une fois, de la restauration et de l'hôtellerie. Et s'ils cherchent en fait des prestataires de services, ils peuvent mettre une annonce. C'est un petit peu comme un Le Bon Coin. Et une autre initiative sur laquelle on a travaillé donc, avec une des mairies qui est précurseuse, c'est les Sydney Streets. Et les Sydney Streets, c'est une initiative sur laquelle on a travaillé ensemble, où en fait c'est un petit peu comme la fête des voisins. On ferme la rue. Les bars ont quelque chose, enfin un staff qui est là toute la journée et les gens peuvent se balader dans la rue. La rue devient piétonne et ils peuvent un petit peu faire un circuit et aller de bar en bar ou de restaurant en bar pour passer un bon moment en ayant des artistes de rue et d'autres personnes qui ou d'autres business qui peuvent offrir leurs services pendant ces journées spécifiques. Donc ça, c'est que certains projets, mais on fait beaucoup de choses. On travaille aussi, il y a une équipe entière qui travaille sur assouplir les réglementations les espaces en extérieur pour avoir justement plus de tables dehors, dans la rue, avoir un petit peu pignon sur rue pour les restaurateurs. C'est pas quelque chose qui est très fréquent. Donc c'est des choses qu'on essaye de mettre en place via des équipes spécialisées dans l'établissement de politique local.
La vie nocturne, c'est aussi bien sûr du business. Sur ce sujet, le gouvernement de Nouvelle-Galles du Sud publie des rapports trimestriels et dans le dernier qui correspond au dernier trimestre de l'année 2024, on apprend que les gens ont dépensé sur cette période, entre 6 h du soir et 6 h du matin, un peu plus de 4 milliards de dollars. Ça, Ça n'est pas juste pour Sydney, mais donc pour tout l'État de Nouvelle-Galles du Sud. Et par ailleurs, cette vie nocturne, elle représente également plus de 870 000 emplois et 53 000 entreprises. Enfin, on se déplace beaucoup et surtout de plus en plus la nuit, puisque le même rapport nous apprend qu'au cours de ce même trimestre, on a enregistré plus de 38 millions de validations avec la carte Opal, la carte de transport dans l'État de Nouvelle-Galles du Sud, et au total, plus de 512 millions de déplacements ont été enregistrés. Alors, cela m'amène à ma dernière question. Est-ce que pour accompagner cette dynamique, envisagez-vous aussi d'étendre les horaires d'ouverture des transports en commun, au moins le week-end, et prendre par exemple l'exemple de Melbourne où, en fin de semaine, les transports fonctionnent toute la nuit? Est-ce qu'à Sydney et pour la Nouvelle-Galles du Sud aussi, c'est une piste de réflexion?
Ça fait partie des pistes de réflexion et de discussion avec le département du transport. C'est des choses qui sont en discussion et qu'on voudrait qu'ils aboutissent. En sachant que y a souvent cette sur pas mal de secteurs la rivalité entre Melbourne et Sydney. Melbourne est mieux placée d'un point de vue européen dans les mentalités sur l'activité de nuit et l'aisance à sortir par rapport à Sydney. C'est ça qu'on essaie d'assouplir. C'est en train avec le département des transports, mais ça prend du temps. Donc, c'est quelque chose qu'on essaye de mettre en place. Il y a donc le secteur de la mobilité, en fait, déployer, avoir un service qui, une amplitude horaire de service qui est plus grande. Mais aussi dans des quartiers qui sont un petit peu moins bien desservis et là on parlera de pas de train mais de réseaux de bus ou même de réseaux privés, donc à savoir les rides qu'on peut avoir via Uber ou d'autres services. C'est quelque chose qu'on essaye d'établir en fait en établissant des points en fait géographiques où les personnes qui sortent la nuit, si elles veulent rentrer chez elles de manière safe, elles vont à un endroit dans le quartier où elles sortent, où elles peuvent aller et où elles sont sûres de trouver un taxi ou un Uber plutôt que d'attendre seules dans la nuit et d'avoir un peu peur ou de pas être sûr, de pas se sentir en sécurité. Donc y a, ça c'est quelque chose avec lequel on travaille. Donc il y a un point to point commissioner, il y a le ministère du transport qui s'occupe de ça. Donc c'est des conversations qui se passent. Il y a aussi autre chose sur lequel on travaille, c'est la sécurité on va appeler ça des minorités, mais la sécurité des femmes, autant les femmes qui travaillent dans le secteur et qui où la culture peut être une culture relativement masculine, voire plus difficile. Donc on essaye de voir un petit peu si on peut pas établir des standards par rapport à ça avec en s'inspirant un petit peu de ce qui a été fait dans d'autres endroits, notamment en Europe, mais aussi aux États-Unis, et de voir comment on peut s'assurer que les personnes qui travaillent dans le secteur de la restauration et de l'hôtellerie ont une culture d'entreprise ou de business qui les soutient et qui a des services de support qui leur sont apportés aussi. Donc ça c'est pour les travailleurs, mais aussi pour la clientèle.
Ok, c'est effectivement un très vaste projet avec tout un tas de pistes encore à explorer. On suivra ça de très près. Merci beaucoup Aurore pour toutes ces explications et bon courage parce que la tâche s'annonce rude. Merci.
Merci.
Vous écoutez le français sur Radio SPS.
À Allez, on vous propose de remonter le temps et de découvrir ou redécouvrir cette interview qui date de 2019, lorsque Jean-Noël Ducasse discutait avec Annick Cojan, grand reporter au journal Le Monde. Elle évoque notamment la condition des femmes dans les zones de guerre. Archive.
Cher auditeur, avant de plonger dans notre podcast d'archives, permettez-nous de vous offrir un brin de contexte. Ces enregistrements sont des témoins du passé, des fragments historiques précieux. Nous vous invitons à écouter avec curiosité et respect en explorant les voix et les sons qui ont façonné notre histoire, tout en acceptant que les propos sont eux aussi des moments d'archives et peuvent, dans certains cas très rares, porter à confusion aujourd'hui. Merci de votre compréhension et bon voyage dans nos archives.
Le très grand plaisir d'accueillir sur les ondes de Radio SBS en Australie, Annick Cojan, grande reporter avec le journal Le Monde. Bienvenue sur les ondes en Australie.
Merci beaucoup.
Et donc, vous venez prochainement nous rendre visite. Quel est le but de ce voyage en Australie et parler de ces conférences que vous allez donner?
Écoutez, je suis vraiment très très heureuse. C'est l'Alliance française qui m'invite à faire une petite tournée dans plusieurs villes d'Australie. Et je l'avais déjà fait il y a 3 ans au Brésil. Dans le passé, j'avais beaucoup parlé d'un livre que je venais de faire qui racontait la vie des femmes dans le règne de Kadhafi en Libye, et plus généralement je parlais du sort des femmes dans la guerre. J'ai été frappée en tant que grand reporter au Monde et par beaucoup de mes voyages et de mon expérience, j'ai vraiment été frappée par la façon terrible par laquelle on traitait les femmes, quels que soient les pays d'ailleurs, mais particulièrement dans les pays en guerre ou les pays en dictature, et notamment dans le Moyen-Orient. Et le hasard a fait que j'ai eu l'occasion de rencontrer des femmes en Libye, d'enquêter sur la Libye pendant la révolution et après la mort de Kadhafi, et de recueillir des témoignages qui étaient absolument effrayants. Et à la suite de ça, j'ai écrit un livre qui racontait une des facettes qu'on ignorait totalement du dictateur libyen, la façon dont il entretenait un harem et la façon dont il s'entourait de femmes en se proclamant presque comme un homme moderne ou comme un féministe, alors qu'en fait, toutes les femmes en uniforme autour de lui qui étaient supposées protéger sa vie, dont il disait avoir fait ses gardes du corps, étaient en fait ses esclaves sexuels. Beaucoup de gens étaient fascinés en Occident, je trouve, par Kadhafi, et je trouvais vraiment important qu'on dise enfin la vérité et le martyr qu'avaient souffert toutes ces femmes. Et puis après, j'ai enquêté sur la guerre en Syrie, et là aussi, j'ai vu que la façon dont on traitait les femmes, évidemment, par Daesh, l'État islamique, ou dans les prisons de Bachar el-Assad et l'Assad, la première chose qu'on faisait aux femmes, c'est de les violer. Et vraiment, ces sujets m'ont particulièrement bouleversée et m'ont donné envie davantage de porter attention où que j'aille à la situation des femmes. Alors évidemment, on peut élargir à ça. Il n'y a pas que dans les dictatures ou les pays islamistes, mais la façon dont le phénomène MeToo a résonné dans le monde entier a permis d'attirer l'attention aussi, je trouve, sur le sort des femmes. Et j'essaie autant que possible, c'est pas une spécialité si vous voulez, mais c'est un très fort intérêt. À chaque fois, j'essaie de porter mon regard sur la situation que l'on fait aux femmes.
Et donc, ce sont là des combats qui vous tiennent à cœur?
Oui. Ça me tient à cœur. Vous savez, j'ai fait beaucoup de choses au Monde. Ça fait plus de 30 ans que je suis journaliste au Monde et une vingtaine d'années que je suis grand reporter. Ça ne veut pas dire grand-chose, grand reporter. Ça veut dire qu'on n'est pas spécialisé, qu'on peut être amené à partir sur n'importe quel terrain, en général pour faire de longues enquêtes ou de longs reportages. J'ai beaucoup de place, effectivement, dans ces cas-là, dans le journal. Et c'est vrai que j'ai couvert des tremblements de terre, j'ai couvert des guerres, j'ai couvert des révolutions. Au printemps dernier, j'étais en Arménie pour ce qu'on a appelé la révolution de velours. Donc c'est vrai que j'ai pas mal d'expérience, mais que c'est peut-être mon tropisme personnel, en tout cas, me donne envie de plus en plus, ayant été témoin de tant d'injustices et de tant d'inégalités entre les hommes et les femmes que j'ai pas ce devoir, je vais pas parler de mission non plus, mais en tout cas j'ai un très fort attrait sur les sujets, en tout cas la situation faite aux femmes. Voilà, j'écris aussi sur bien d'autres choses évidemment, mais c'est peut-être ça dont je crois que nous parlerons essentiellement en Australie.
Vous parlerez aussi sur votre dernier livre, Je ne serais pas arrivé là si... .. 27 femmes racontent.
Oui, alors ça c'est très différent, c'est vrai, vous avez raison, bien sûr que je vais parler de ça, parce que j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ça, franchement. Chaque semaine, j'interroge des hommes et des femmes, et là je fais un livre uniquement avec des témoignages de femmes, et mes interviews, qui sont des interviews au long cours, quelquefois je passe 3 heures avec la personne, quelquefois un peu moins, mais on peut quelquefois passer un après-midi ensemble, on part toujours de cette phrase, je ne serais pas arrivée là si... 3 points de suspension. Et à partir de là, effectivement, c'est le début d'une conversation. On rentre dans un dialogue, on plonge la personne en face de moi et moi-même dans l'inconnu, parce que je ne sais jamais ce qu'elles vont me dire, et je rebondis. Et au fil du temps, la conversation finalement arrive à évoquer les ressorts personnels de chaque interlocuteur ou interlocutrice. Et il se trouve que, ayant rencontré comme ça une trentaine de femmes, là j'en ai choisi 27, qui vont d'une ministre française, peut-être Christiane Taubira, à Nicole Kidman, l'actrice australienne, mais aussi à John Baez, à Patti Smith, à Marianne Faithfull, ou bien à Véronique Sanson en France, ou Virginie Despentes, Amélie Nothomb, des gens vraiment des personnalités extrêmement diverses, eh bien, toutes ces conversations me disent beaucoup de choses sur ce que c'est qu'une vie de femme, les combats, les difficultés, comment elles se sont imposées dans un monde où les règles ont été principalement forgées par des hommes. Beaucoup ont connu de la violence. Je vous avoue que c'est ce qui m'a sidérée les premières fois, parce qu'un tiers des femmes que j'ai interviewées, et je ne le savais pas avant, ont subi des violences diverses dans leur famille ou conjugales ou des viols. Et puis on parle pas que ça, bien sûr, mais comment on se construit, comment face au deuil, face aux adversités, etc., on dessine une vie. On sait pas, c'est vertigineux quand on a 15 ou 20 ans, et puis j'interroge ces femmes qui en ont 45, 50, 60, 70, et c'est assez fascinant de se retourner et de parler à bâton rompu, sans entrave, et avec beaucoup de sincérité, sur ce qui a fait ce qu'on appellera un destin, mais qui se forge au jour le jour. Et toutes ces femmes, quand on relit leurs témoignages mis bout à bout, nous donnent une impression de sororité. Elles sont pourtant très différentes. Vous savez, entre Nicole Kidman et Christiane Taubira, ou bien entre, John Baez et Amélie Nothomb, ou Brigitte Bardot, puisque j'ai passé beaucoup de temps aussi avec Brigitte Bardot, on peut se dire, elles n'ont vraiment rien en commun. Et bien, quand on les lit, quand on les écoute, au fil des pages, on se rend compte que malgré tout, il y a beaucoup de choses en commun entre ces femmes qui ont toutes beaucoup de force, ont eu des coups, vraiment, des blessures, et finalement, ce sont des femmes debout, voilà. Et ça, je trouve que c'est de les écouter donne beaucoup de force, y compris aux très jeunes femmes qui me lisent, aux jeunes filles qui ne savent pas encore de quoi va être faite leur vie, et je trouve que ça donne beaucoup d'ardeur et de courage.
Parlons de Nicole Kidman dans ce contexte australien. Ce qui vous a marqué le plus chez elle?
Écoutez, elle était extrêmement sympathique, vraiment, très joyeuse. Et ça, alors je ne savais pas du tout ce qu'elle allait me répondre. Nicole Kidman, je parlais en anglais. I wouldn't be where I am now if... Mm-hmm. Oh, et elle m'a dit, oh, this is so easy. I wouldn't be where I am now if I hadn't have a very feminist mother. Et alors là, elle m'a raconté une enfance en Australie, à Sydney, où elle avait la peau tellement blanche qu'il fallait absolument la protéger du soleil, et que quand l'ensemble de ses amis ou dans sa famille, tout le monde allait dehors pour les barbecues, à la piscine, etc., ouais, elle restait la plupart du temps dans sa chambre, et sa mère lui donnait une liste de livres à lire, absolument. Et c'est comme ça que très vite, à 10 ans, à 12 ans, elle avait déjà lu un nombre de livres, des chefs-d'œuvre de la littérature russe, des chefs-d'œuvre de la littérature française, américaine, etc. Et que très vite, elle a voulu aller faire du théâtre. Et ses parents ont voulu tester un peu cette envie et lui avaient dit « on ne te conduira pas, tu feras comme tu voudras ». Et donc, le samedi matin, elle prenait un bus, un deuxième bus, un troisième bus, toute seule, pour aller suivre ses cours à Sydney. Et c'est comme ça que petit à petit, elle a émergé. Et cette l'empreinte ou l'influence de sa mère féministe, engagée, avec une très forte personnalité, a été fondamentale tout au long de sa vie. Et maintenant qu'elle habite à Nashville, qu'elle a elle-même deux petites filles, je crois, elle a un engagement féministe très important. Très important. Sa mère, d'ailleurs, a eu un cancer et a été heureusement bien soignée, et donc elle s'engage également pour le cancer, mais aussi beaucoup pour les droits des femmes. Elle travaille à l'ONU, elle a témoigné auprès du Sénat américain sur les violences faites aux femmes, et j'avoue que j'ignorais ça, je ne savais pas qu'elle était aussi ardente, aussi féministe, mais ça m'a fait beaucoup plaisir de découvrir une personnalité aussi forte, aussi riche et aussi ouverte.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais. Nulle raison d'envier le soleil, je ferai danser les gens, rythme de mes pleurs, la tourmente de mes chants viendra.
Magnifique chanson de Zao de Sagazan, la symphonie des éclairs. C'est la fin de cette émission, messieurs, dames. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Votre prochain rendez-vous avec le français, c'est demain, même fréquence, même heure. Je vous souhaite d'ici là de passer un très beau samedi. Au revoir, messieurs, dames.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.